Antoine de Rivarol, de l'universalité de la langue française, discours qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin, 1784. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Une telle question, proposée sur la langue latine, aurait flatté l'orgueil des Romains et leur histoire l'eût consacrée comme une de ces belles époques. Jamais, en effet, pareil hommage ne fut rendu à un peuple plus poli par une nation plus éclairée. Et le temps semble être venu de dire le monde français, comme autrefois le monde romain. Et la philosophie, lasse de voir les hommes toujours divisés par les intérêts divers de la politique, se réjouit maintenant de les voir, d'un bout de la terre à l'autre, se former en république sous la domination d'une même langue. Spectacle digne d'elle que cet uniforme et paisible empire des lettres qui s'étend sur la variété des peuples et qui, plus durable et plus fort que l'empire des armes, s'accroît également des fruits de la paix et des ravages de la guerre. Mais cette honorable universalité de la langue française, si bien reconnue et si hautement avouée dans notre Europe, offre pourtant un grand problème. Elle tient à des causes si délicates et si puissantes à la fois que pour les démêler, il s'agit de montrer jusqu'à quel point la position de la France, sa constitution politique, l'influence de son climat, le génie de ses écrivains, le caractère de ses habitants et l'opinion qu'elle a su donner d'elle au reste du monde, jusqu'à quel point, dis-je, tant de causes diverses ont pu se combiner et s'unir pour faire à cette langue une fortune si prodigieuse. Quand les Romains conquirent les Gaules, leur séjour et leurs lois y donnèrent d'abord la prééminence à la langue latine. Et quand les Francs leur succédèrent, la religion chrétienne, qui jetait ses fondements dans ceux de la monarchie, confirma cette prééminence. On parla latin à la cour, dans les cloîtres, dans les tribunaux et dans les écoles. Mais les jargons que parlait le peuple corrompirent peu à peu cette latinité et en furent corrompus à leur tour. De ce mélange naquit cette multitude de patois qui vivent encore dans nos provinces. L'un d'eux devait un jour être la langue française. Il serait difficile d'assigner le moment où ces différents dialectes se dégagèrent de celle du latin et de l'allemand. On voit cependant qu'ils ont dû se disputer la souveraineté dans un royaume que le système féodal avait divisé en tant de petits royaumes. Pour hâter notre marche, il suffira de dire que la France, naturellement partagée par la Loire, eut deux patois, auxquels on peut rappeler tous les autres, le Picard et le Provençal. Des princes s'exercèrent dans l'un et l'autre, et c'est aussi dans l'un et l'autre que furent d'abord écrits les romans de chevalerie et les petits poèmes du temps. Du côté du Midi fleurissaient les troubadours et du côté du Nord les trouvères. Ces deux mots, qui au fond n'en sont qu'un seul, expriment assez bien la physionomie des deux langues. Si le Provençal, qui n'a que des sons pleins, eût prévalu, il aurait donné aux Français l'éclat de l'espagnol et de l'italien. Mais le Midi de la France, toujours sans capitale et sans roi, ne put soutenir la concurrence du Nord, et l'influence du patois Picard s'accrut avec celle de la couronne. C'est donc le génie clair et méthodique de ce jargon et sa prononciation un peu sourde qui dominent aujourd'hui dans la langue française. Mais, quoique cette nouvelle langue eût été adoptée par la cour et par la nation, et que dès l'an 1260, un auteur italien lui eût trouvé assez de charme pour la préférer à la sienne, cependant l'Église, l'université et les parlements la repoussèrent encore. Et ce ne fut que dans le XVIe siècle qu'on lui accorda solennellement les honneurs dus à une langue légitimée. À cette époque, la renaissance des lettres, la découverte de l'Amérique et du passage aux Indes, l'invention de la poudre et de l'imprimerie, ont donné une autre face aux empires. Ceux qui brillaient se sont tout à coup obscurcis, et d'autres, sortant de leur obscurité, sont venus firer à leur tour sur la scène du monde. Si du nord au midi un nouveau schisme a déchiré l'Église, un commerce immense a jeté de nouveaux liens parmi les hommes. C'est avec les sujets de l'Afrique que nous cultivons l'Amérique. C'est avec les richesses de l'Amérique que nous trafiquons en Asie. L'univers n'offrit jamais un tel spectacle. L'Europe, surtout, est parvenue à un si haut degré de puissance que l'histoire n'a rien à lui comparer. Le nombre des capitales, la fréquence et la célébrité des expéditions, les communications publiques et particulières en ont fait une immense république et l'ont forcé à se décider sur le choix d'une langue. Ce choix ne pouvait tomber sur l'allemand, car vers la fin du XVe siècle et dans tout le cours du XVIe, cette langue n'offrait pas un seul monument. Négligée par le peuple qui la parlait, elle cédait toujours le pas à la langue latine. Comment donc faire adopter aux autres ce qu'on ose adopter soi-même? C'est des Allemands que l'Europe apprit à négliger la langue allemande. Observons aussi que l'Empire n'a pas joué le rôle auquel son étendue et sa population l'appelaient naturellement. Ce vaste corps n'eut jamais un chef qui lui fût proportionné, et dans tous les temps, cette ombre du trône des Césars, qu'on affectait de montrer aux nations, ne fut en effet qu'une ombre. On ne saurait croire combien une langue empreinte d'éclat du prince et du peuple qui la parle. Et lorsqu'enfin la maison d'Autriche, fière de toutes ses couronnes, a pu faire craindre à l'Europe une monarchie universelle, la politique s'est encore opposée à la fortune de la langue tudesque. Charles Quint, plus attaché à son sceptre héréditaire qu'à un trône où son fils ne pouvait monter, fit rejaillir l'éclat des Césars sur la nation espagnole. À tant d'obstacles tirés de la situation de l'Empire, on peut en ajouter d'autres fondés sur la nature même de la langue allemande. Elle est trop riche et trop dure à la fois. N'ayant aucun rapport avec les langues anciennes, elle fut pour l'Europe une langue mère, et son abondance effraya des têtes déjà fatiguées de l'étude du latin et du grec. En effet, un Allemand qui apprend la langue française, ne fait pour ainsi dire qu'y descendre, conduit par la langue latine. Mais rien ne peut nous faire remonter du français à l'allemand. Il aurait fallu se créer pour lui une nouvelle mémoire, et sa littérature, il y a un siècle, ne valait pas un tel effort. D'ailleurs, sa prononciation gutturale choqua trop l'oreille des peuples du Midi. Les imprimeurs allemands, fidèles à l'écriture gothique, rebutèrent des yeux accoutumés au caractère romain. On peut donc établir, pour règle générale, que si l'homme du Nord est appelé à l'étude des langues méridionales, il faut de longues guerres dans l'Empire pour faire surmonter au peuple du Midi leur répugnance pour les langues septentrionales. Le genre humain est comme un fleuve qui coule du nord au midi. Rien ne peut le faire rebrousser chemin contre sa source. Et voilà pourquoi l'universalité de la langue française est moins vraie pour l'Espagne et pour l'Italie que pour le reste de l'Europe. Ajoutez que l'Allemagne a presque autant de dialectes que de capitales, ce qui fait que ses écrivains s'accusent réciproquement de batavinité. On dit, il est vrai, que les plus distingués d'entre eux ont fini par s'accorder sur un choix de mots et de tournures qui met déjà leur langue à l'abri de cette accusation, mais qui le met aussi hors de la portée du peuple dans toute la Germanie. Il reste à savoir jusqu'à quel point la révolution qui s'opère aujourd'hui dans la littérature des Germains influera sur la réputation de leur langue. On peut seulement présumer que cette révolution s'est faite un peu tard et que leurs écrivains ont repris les choses de trop haut. Des poèmes tirés de la Bible, où tout respire un air patriarcal et qui annoncent des mœurs admirables, n'auront de charme que pour une nation simple et sédentaire, presque sans port et sans commerce, et qui ne sera peut-être jamais réunie sous un même chef. L'Allemagne offrira longtemps le spectacle d'un peuple antique et modeste, gouverné par une foule de princes amoureux des modes et du langage, d'une nation attrayante et polie. D'où il suit que l'accueil extraordinaire que ces princes et leurs académies ont fait à un idiome étranger est un obstacle de plus qu'ils opposent à leur langue et comme une exclusion qu'ils lui donnent. La monarchie espagnole pouvait, se semble, fixer le choix de l'Europe. Toute brillante de l'or de l'Amérique, puissante dans l'Empire, maîtresse des Pays-Bas et d'une partie de l'Italie, les malheurs de François Ier lui donnaient un nouveau lustre et ses espérances s'accroissaient encore des troubles de la France et du mariage de Philippe II avec la reine d'Angleterre. Tant de grandeur ne fut qu'un éclair. Charles Quint ne put laisser à son fils la couronne impériale, et ce fils perdit la moitié des Pays-Bas. Bientôt, l'expulsion des Maures et les émigrations en Amérique blessèrent l'État dans son principe, et ces deux grandes plaies ne tardèrent pas à paraître. Aussi, quand ce colosse fut frappé par Richelieu, ne put-il résister à la France, qui s'était comme rajeunie dans les guerres civiles. Ses armées plièrent de tous côtés, sa réputation s'éclipsa. Peut-être, malgré ses pertes, sa décadence eût été moins prompte en Europe si sa littérature avait pu alimenter l'avide curiosité des esprits qui se réveillaient de toutes parts. Mais le castillan, substitué partout au patois catalan, comme notre Picard l'avait été au provençal, le castillan, dis-je, n'avait point cette galanterie mauresque dont l'Europe fut quelque temps charmée, et le génie national était devenu plus sombre. Il est vrai que la folie des chevaliers errants nous valut le Don Quichotte et que l'Espagne acquit un théâtre. Il est vrai qu'on parlait espagnol dans les cours de Vienne, de Bavière, de Bruxelles, de Naples et de Milan, que cette langue circulait en France avec l'or de Philippe du temps de la Ligue, et que le mariage de Louis XIII avec une princesse espagnole maintint si bien sa faveur que les courtisans la parlaient et que les gens de lettres empruntèrent la plupart de leurs pièces au théâtre de Madrid. Mais le génie de Cervantes et celui de Lope de Vega ne suffirent pas longtemps à nos besoins. Le premier, d'abord traduit, ne perdit point à lettres, et le second, moins parfait, fut bientôt limité et surpassé. On s'aperçut donc que la munificence de la langue espagnole et l'orgueil national cachaient une pauvreté réelle. L'Espagne, n'ayant que le signe de la richesse, paya ceux qui commerçaient pour elle, sans songer qu'il faut toujours les payer davantage. Grave, peu communicative, subjuguée par des prêtres, elle fut pour l'Europe ce qu'était autrefois la mystérieuse Égypte, dédaignant des voisins qu'elle enrichissait et s'enveloppant du manteau de cet orgueil politique qui a fait tous ses maux. On peut dire que sa position fut un autre obstacle au progrès de sa langue. Le voyageur qui la visite y trouve encore des colonnes d'Hercule et doit toujours revenir sur ses pas. Aussi l'Espagne est-elle, de tous les royaumes, celui qui doit le plus difficilement réparer ses pertes lorsqu'il est une fois dépeuplé. Mais en supposant que l'Espagne eût conservé sa prépondérance politique, il n'est pas démontré que sa langue fût devenue la langue usuelle de l'Europe. La majesté de sa prononciation invite à l'enflure, et la simplicité de la pensée se perd dans la longueur des mots et sous la plénitude des désinences. On est tenté de croire qu'en Espagne, la conversation n'a plus de familiarité, l'amitié plus d'épanchement, le commerce de la vie plus de liberté, et que l'amour y est toujours un culte. Charles Quint lui-même, qui parlait plusieurs langues, réservait l'espagnol pour les jours de solennité et pour ses prières. En effet, les livres ascétiques y sont admirables, et il semble que le commerce de l'homme à Dieu se fasse mieux en espagnol qu'en tout autre idiome. Les proverbes y ont aussi de la réputation, parce qu'étant le fruit de l'expérience de tous les peuples, et le bon sang de tous les siècles réduit en formule, l'espagnol leur prête encore une tournure plus sentencieuse. Mais les proverbes ne quittent pas les lèvres du petit peuple. Il paraît donc probable que ce sont et les défauts et les avantages de la langue espagnole qui ont exclu à la fois de l'universalité. Mais comment l'Italie ne donne-t-elle pas sa langue à l'Europe? Centre du monde, depuis tant de siècles, on était accoutumé à son empire et à ses lois. Au César qu'elle n'avait plus avaient succédé les pontifes, et la religion lui rendait constamment les États que lui arrachait le sort des armées. Les seules routes praticables en Europe conduisaient à Rome. Elles seules attiraient les vœux et l'argent de tous les peuples, parce qu'au milieu des ombres épaisses qui couvraient l'Occident, il y eut toujours dans cette capitale une masse de lumière. Et quand les beaux-arts, exilés de Constantinople, se réfugièrent dans nos climats, l'Italie se réveilla la première à leur approche et fut une seconde fois la Grande Grèce. Comment s'est-il donc fait qu'à tous ces titres n'ait pas ajouté l'empire du langage? C'est que, dans tous les temps, les papes ne parlèrent et n'écrivirent qu'en latin. C'est que, pendant 20 siècles, cette langue régna dans les républiques, dans les cours, dans les écrits et dans les monuments de l'Italie, et que le toscan fut toujours appelé la langue vulgaire. Aussi, quand le Dante entreprit d'illustrer ses malheurs et ses vengeances, hésita-t-il longtemps entre le toscan et le latin? Il voyait que sa langue n'avait pas, même dans le midi de l'Europe, l'éclat et la vogue du provençal. Et il pensait, avec son siècle, que l'immortalité était exclusivement attachée à la langue latine. Pétrarque et Boccace eurent les mêmes craintes, et comme le Dante, ils ne purent résister à la tentation d'écrire la plupart de leurs ouvrages en latin. Il est arrivé pourtant le contraire de ce qu'ils espéraient. C'est dans les langues maternelles que leur nom vit encore. Leurs œuvres latines sont dans l'oubli. Il est même à présumer que, sans les sublimes conceptions de ces trois grands hommes, le patois des troubadours aurait disputé le pas à la langue italienne, au milieu même de la cour pontificale établie en Provence. Quoi qu'il en soit, les poèmes du Dante et de Pétrarque, brillants de beautés antiques et modernes, ayant fixé l'admiration de l'Europe, la langue toscane acquit de l'empire. À cette époque, le commerce de l'Ancien Monde passait tout entier par les mains de l'Italie. Pise, Florence et surtout Venise et Gênes étaient les seules villes opulentes de l'Europe. C'est d'elles qu'il fallut, au temps des croisades, emprunter des vaisseaux pour passer en Asie, et c'est d'elles que les barons français, anglais et allemands tiraient le peu de luxe qu'ils avaient. La langue toscane régna sur toute la Méditerranée. Enfin, le beau siècle des Médicis arriva. Machiavel débrouilla le chaos de la politique et Galilée sema les germes de cette philosophie qui n'a porté les fruits que pour la France et le nord de l'Europe. La sculpture et la peinture prodiguaient leurs miracles et l'architecture marchait d'un pas égal. Rome se décora de chefs-d'œuvre sans nombre. Et l'Arioste et le Tasse portèrent bientôt la plus douce des langues à sa plus haute perfection dans des poèmes qui seront toujours les premiers monuments de l'Italie et le charme de tous les hommes. Qui pouvait donc arrêter la domination d'une telle langue? D'abord une cause tirée de l'ordre même des événements. Cette maturité fut trop précoce. L'Espagne, tout politique et guerrière, parut ignorer l'existence du Tasse et de l'Arioste. L'Angleterre, théologique et barbare, n'avait pas un livre, et la France se débattait dans les horreurs de la Ligue. On dirait que l'Europe n'était pas prête et qu'elle n'avait pas encore senti le besoin d'une langue universelle. Une foule d'autres causes se présentent. Quand la Grèce était un monde, dit fort bien Montesquieu, ses plus petites villes étaient des nations. mais ceci ne put jamais s'appliquer à l'Italie dans le même sens. La Grèce donna des lois aux barbares qui l'environnaient, et l'Italie, qui ne sut pas, à son exemple, se former en république fédérative, fut tour à tour envahie par les Allemands, par les Espagnols et par les Français. Son heureuse position et sa marine auraient pu la soutenir et l'enrichir. Mais dès qu'on eut doublé le cap de Bonne-Espérance, l'océan reprit ses droits et le commerce des Indes ayant passé tout entier aux Portugais, l'Italie ne se trouva plus que dans un coin de l'univers. Privée de l'éclat des armes et des ressources du commerce, il lui restait sa langue et ses chefs-d'œuvre. Mais par une fatalité singulière, le bon goût se perdit en Italie au moment où il se réveillait en France. Le siècle des Corneilles, des Pascal et des Molières fut celui d'un cavalier marin, d'un alchimiste et d'une foule d'auteurs plus méprisables encore. De sorte que, si l'Italie avait conduit la France, il fallut ensuite que la France ramena l'Italie. Cependant, l'éclat du nom français augmentait. L'Angleterre se mettait sur les rangs et l'Italie se dégradait de plus en plus. On sentit généralement qu'un pays qui ne fournissait plus que des baladins à l'Europe ne donnerait jamais assez de considération à sa langue. On observa que l'Italie, n'ayant pu, comme la Grèce, ennoblir ses différents dialectes, elle s'en était trop occupée. À cet égard, la France paraît plus heureuse. Les patois y sont abandonnés aux provinces, et c'est sur eux que le petit peuple exerce ses caprices, tandis que la langue nationale est hors de ses atteintes. Enfin, le caractère même de la langue italienne fut ce qui l'écarta le plus de cette universalité qu'obtient chaque jour la langue française. On sait quelle distance sépare en Italie la poésie de la prose. Mais ce qui doit étonner, c'est que le vers y est réellement plus d'âpreté, ou pour mieux dire, moins de milliardise que la prose. Les lois de la mesure et de l'harmonie ont forcé le poète à tronquer les mots, et par ses syncopes fréquentes, il s'est fait une langue à part, qui, outre la hardiesse des inversions, a une marche plus rapide et plus ferme. Mais la prose, composée de mots dont toutes les lettres se prononcent, et roulant toujours sur des sons pleins, se traîne avec trop de lenteur. Son éclat est monotone. L'oreille se lasse de sa douceur et la langue de sa mollesse, ce qui peut venir de ce que, chaque mot étant harmonieux en particulier, l'harmonie du tout ne vaut rien. La pensée la plus vigoureuse se détrempe dans la prose italienne. Elle est souvent ridicule et presque insupportable dans une bouche virile, parce qu'elle ôte à l'homme cette teinte d'austérité qui doit en être séparable. Comme la langue allemande, elle a des formes cérémonieuses, ennemies de la conversation, et qui ne donnent pas assez bonne opinion de l'espèce humaine. On y est toujours dans la fâcheuse alternative d'ennuyer ou d'insulter un homme. Enfin, il paraît difficile d'être naïf ou vrai dans cette langue, et la plus simple assertion y est toujours renforcée du serment. Tels sont les inconvénients de la prose italienne, d'ailleurs si riche et si flexible. Or, c'est la prose qui donne l'empire à une langue, parce qu'elle est toute usuelle. La poésie n'est qu'un objet de luxe. Malgré tout cela, on sent bien que la patrie de Raphaël, de Michel-Ange et du Tasse ne sera jamais sans honneur. C'est dans ce climat fortuné que la plus mélodieuse des langues s'est unie à la musique des anges, et cette alliance rassure un empire éternel. C'est là que les chefs-d'œuvre antiques et modernes et la beauté du ciel attirent le voyageur, et que l'affinité des langues toscanes et latines le fait passer avec transport de l'Énéide à la Jérusalem. L'Italie, environnée de puissance qui l'humilie, a toujours droit de les charmer. Et sans doute que, si les littératures anglaises et françaises n'avaient éclipsé la sienne, l'Europe aurait encore accordé plus d'hommages à une contrée deux fois mère des arts. Dans ce rapide tableau des nations, on voit le caractère des peuples et le génie de leur langue marcher d'un pas égal, et l'un est toujours garant de l'autre. Admirable propriété de la parole, de montrer ainsi l'homme tout entier. Des philosophes ont demandé si la pensée peut exister sans la parole ou sans quelque autre signe. Non, sans doute. L'homme, étant une machine très harmonieuse, n'a pu être jeté dans le monde sans y établir une foule de rapports. La seule présence des objets lui a donné des sensations qui sont nos idées les plus simples et qui sont bientôt amenées les raisonnements. Il a d'abord senti le plaisir et la douleur, et il les a nommés. Ensuite, il a connu et nommé l'erreur et la vérité. Or, sensation et raisonnement, voilà de quoi tout l'homme se compose. L'enfant doit sentir avant de parler, mais il faut qu'il parle avant de penser. Chose étrange, si l'homme n'eût pas créé des signes, ses idées simples et fugitives, germantes et mourantes tour à tour, n'auraient pas laissé plus de traces dans son cerveau que les flots d'un ruisseau qui passe n'en laissent dans ses yeux. Mais l'idée simple a d'abord nécessité le signe, et bientôt le signe a fécondé l'idée. Chaque mot a fixé la sienne, et telle est leur association que, si la parole est une pensée qui se manifeste, il faut que la pensée soit une parole intérieure et cachée. L'homme qui parle est donc l'homme qui pense, tout haut. Et si on peut juger un homme par ses paroles, on peut aussi juger une nation par son langage. La forme et le fond des ouvrages dont chaque peuple se vante n'y fait rien. C'est d'après le caractère et le génie de leur langue qu'il faut prononcer, car presque tous les écrivains suivent des règles et des modèles, mais une nation entière parle d'après son génie. On demande souvent ce que c'est que le génie d'une langue. Il est difficile de le dire. Ce mot tient à des idées très composées. Il a l'inconvénient des idées abstraites et générales. On craint, en le définissant, de le généraliser encore. Mais, afin de mieux rapprocher cette expression de toutes les idées qu'elle embrasse, on peut dire que la douceur ou l'âpreté des articulations, l'abondance ou la rareté des voyelles, la prosodie et l'étendue des mots, leur filiation, et enfin le nombre et la forme des tournures et des constructions qu'ils prennent entre eux, sont les causes les plus évidentes du génie d'une langue, et ces causes se lient au climat et au caractère de chaque peuple en particulier. Il semble, au premier coup d'œil, que les proportions de l'organe vocal étant invariables, elles auraient dû produire partout les mêmes articulations et les mêmes mots, et qu'on ne devrait entendre qu'un seul langage dans l'univers. Mais si les autres proportions du corps humain, non moins invariables, n'ont pas laissé de changer de nation en nation, et si les pieds, les pouces et les coudées d'un peuple ne sont pas ceux d'un autre, il fallait aussi que l'organe brillant et compliqué de la parole éprouva de grands changements de peuple en peuple et souvent de siècle en siècle. La nature, qui n'a qu'un modèle pour tous les hommes, n'a pourtant pas confondu tous les visages sous une même physionomie. Ainsi, quoi qu'on trouve les mêmes articulations radicales, ce sont ces racines des mots que les étymologies cherchent obstinément par un travail ingénieux et vain. Les uns veulent tout ramener à une langue primitive et parfaite, les autres déduisent toutes les langues des mêmes radicaux. Ils les regardent comme une monnaie que chaque peuple a chargée de son empreinte. En effet, s'il existait une monnaie dont tous les peuples se fussent toujours servis, et qu'elle fût indestructible, c'est elle qu'il faudrait consulter pour la fixation des temps où elle fut frappée. Et si cette monnaie était telle que, sans trop de confusion, on eût pu lui donner des marques certaines qui désignassent ces empires où elle aurait passé, l'époque de leur politesse ou de leur barbarie, de leur force ou de leur faiblesse, c'est elle encore qui fournirait les plus sûrs matériaux de l'histoire. Enfin, si cette monnaie s'altérait de certaines manières entre les mains de certains particuliers, que leurs affections lui donnassent de telles couleurs et de telles formes qu'on distingua les pièces qui ont servi à soulager l'humanité ou à l'opprimer, à l'encouragement des arts ou à la corruption de la justice, etc., une telle monnaie dévoilerait incontestablement le génie, le goût et les mœurs de chaque peuple. Or, les racines des mots sont cette monnaie primitive, antique médaille répandue chez tous les peuples. Les langues, plus ou moins perfectionnées, ne sont autre chose que cette monnaie ayant déjà eu cours, et les livres sont les dépôts qui constatent ces différentes altérations. Voilà la supposition la plus favorable qu'on puisse faire. Et c'est elle, sans doute, qui a séduit l'auteur du Monde primitif, ouvrage plus rempli d'imagination que de recherche, et de recherche que de preuves, qui, n'ayant pas de proportion avec la brièveté de la vie, sollicite un abrégé dès la première page. Il me semble que ce n'est point de l'étymologie des mots qu'il faut s'occuper, mais plutôt de leurs analogies et de leurs filiations qui peuvent conduire à celles des idées. Les langues les plus simples et les plus près de leur origine sont déjà très altérées. Il n'y a jamais eu sur la terre ni sang pur ni langue sans alliage. Quand il nous manque un mot, disaient les Latins, nous l'empruntons des Grecs. Tous les peuples en ont pu dire autant. La plupart des mots ont quelquefois une généalogie si bizarre qu'il faut la deviner. Et la plus vraisemblable est souvent la moins vraie. Un usage, une plaisanterie, un événement dont il ne reste plus de trace, ont établi des expressions nouvelles ou détourné le sens des anciennes. Comment donc se flatter d'avoir trouvé la vraie racine d'un mot? Si vous me la montrez dans le grec, un autre la verra dans le syriaque, tel autre dans l'arabe. Souvent, un radical vous a guidé heureusement d'une première à une seconde, ensuite à une troisième langue, et tout à coup, il disparaît comme un flambeau qui s'éteint au milieu de la nuit. Il n'y a donc que quelques onomatopées, quelques sons bien imitatifs qu'on retrouve chez toutes les nations. Leur recueil ne peut être qu'un objet de curiosité. Il est d'ailleurs si rare que l'étymologie d'un mot coïncide avec sa véritable acception, qu'on ne peut justifier ces sortes de recherches par le prétexte de mieux fixer par là le sens des mots. Les écrivains qui savent le plus de langues sont ceux qui commettent le plus d'impropriétés. Trop occupés de l'ancienne énergie d'un terme, ils oublient sa valeur actuelle et négligent les nuances qui font la grâce et la force du discours. Voici enfin une dernière réflexion. Si les mots avaient une origine certaine et fondée en raison, et si on démontrait qu'il a existé un peuple créateur de la première langue, les noms radicaux et primitifs auraient un rapport nécessaire avec l'objet nommé. La définition que nous sommes forcés de faire de chaque chose ne serait qu'une extension de ce nom primitif, lequel ne serait lui-même qu'une définition très abrégée et très parfaite de l'objet. Et c'est ce que certains théologiens ont affirmé de la langue que parla le premier homme. On aurait donc unanimement donné le même nom au même arbre, au même animal, sur toute la terre et dans tous les temps. Mais cela n'est point. Qu'on en juge par l'embarras où nous sommes lorsqu'il s'agit de nommer quelque objet inconnu ou de faire passer un terme nouveau, chez des peuples différents. Les langues n'en ont pas moins varié comme la scène du monde. Chantantes et voluptueuses dans les beaux climats, âpres et sourdes sous un ciel triste, elles ont constamment suivi la répétition et la fréquence des mêmes sensations. Après avoir expliqué la diversité des langues par la nature même des choses et fondé l'union du caractère d'un peuple et du génie de sa langue sur l'éternelle alliance de la parole et de la pensée, il est temps d'arriver aux deux peuples qui nous attendent et qui doivent fermer cette lice des nations. Peuples chez qui tout diffère, climat, langage, gouvernement, vices et vertus, peuples voisins et rivaux, qui, après avoir disputé 300 ans, non à qui aurait l'empire, mais à qui existerait, se disputent encore la gloire des lettres et se partagent depuis un siècle les regards de l'univers. L'Angleterre, sous un ciel nébuleux et séparé du reste du monde, ne parut qu'un exil aux Romains, tandis que la Gaule, ouverte à tous les peuples et jouissant du ciel de la Grèce, faisait les délices des Césars. Première différence établie par la nature, et d'où dérive une foule d'autres différences. Ne cherchons pas ce qu'était la nation anglaise lorsque, répandue dans les plus belles provinces de France, adoptant notre langage et nos mœurs, elle n'offrait pas une physionomie distincte. Ni dans les temps où, consternée par le despotisme de Guillaume le Conquérant ou des Tudors, elle donnait à ses voisins des modèles d'esclavage. Mais considérons-la dans son île, rendue à son propre génie, parlant sa propre langue, florissante de ses lois, s'asseyant enfin à son véritable rang en Europe. Par sa position et par la supériorité de sa marine, elle peut nuire à toutes les nations et les braver sans cesse. Comme elle doit toute sa splendeur à l'océan qui l'environne, il faut qu'elle l'habite, qu'elle le cultive, qu'elle se l'approprie. Il faut que cet esprit d'inquiétude et d'impatience auquel elle doit sa liberté se consume au-dedans s'il éclate au dehors. Mais quand l'agitation est intérieure, elle peut être fatale au prince qui, pour lui donner un autre cours, se hâte d'ouvrir ses ports, et les pavillons de l'Espagne, de la France et de la Hollande sont bientôt insultés. Son commerce, qui s'est ramifié dans les quatre parties du monde, fait aussi qu'elle peut être blessée de 1000 manières différentes, et les sujets de guerre ne lui manquent jamais. De sorte qu'à toute l'estime qu'on ne peut refuser à une nation puissante et éclairée, les autres peuples joignent toujours un peu de haine, mêlée de crainte et d'envie. Mais la France, qui a dans son sein une subsistance assurée et ses richesses immortelles, agit contre ses intérêts et méconnaît son génie quand elle se livre à l'esprit de conquête. Son influence est si grande dans la paix et dans la guerre que, toujours maîtresse de donner l'une ou l'autre, il doit lui sembler doux de tenir dans ses mains la balance des empires et d'associer le repos de l'Europe au sien. Par sa situation, elle tient à tous les États. Par sa juste étendue, elle touche à ses véritables limites. Il faut donc que la France conserve et qu'elle soit conservée, ce qui la distingue de tous les peuples anciens et modernes. Le commerce des deux mers enrichit ses villes maritimes et vivifie son intérieur, et c'est de ses productions qu'elle alimente son commerce, si bien que tout le monde a besoin de la France, quand l'Angleterre a besoin de tout le monde. Aussi, dans les cabinets de l'Europe, c'est plutôt l'Angleterre qui inquiète, c'est plutôt la France qui domine. Sa capitale, enfoncée dans les terres, n'a point eu, comme les villes maritimes, l'affluence des peuples. Mais elle a mieux senti et mieux rendu l'influence de son propre génie, le goût de son terroir, l'esprit de son gouvernement. Elle a attiré par ses charmes plus que par ses richesses. Elle n'a pas eu le mélange, mais le choix des nations. Les genres d'esprit ont abondé, et son empire a été celui du goût. Les opinions exagérées du Nord et du Midi viennent s'y prendre une teinte qui plaît à tous. Il faut donc que la France craigne de détourner par la guerre le repenchant de tous les peuples pour elle. Quand on règne par l'opinion, a-t-on besoin d'un autre empire ? Je suppose ici que, si le principe du gouvernement s'affaiblit chez l'une des deux nations, il s'affaiblit aussi dans l'autre, ce qui fera subsister longtemps le parallèle et leur rivalité. Car si l'Angleterre avait tout son ressort, elle serait trop remuante, et la France serait trop à craindre si elle déployait toute sa force. Il y a pourtant cette observation à faire que le monde politique peut changer d'attitude et la France n'y perdrait pas beaucoup. Il n'en est pas ainsi de l'Angleterre. Je ne puis prévoir jusqu'à quel point elle tombera pour avoir plutôt songé à étendre sa domination que son commerce. La différence de peuple à peuple n'en est pas moins forte, d'homme à homme. L'anglais sec et taciturne, joint à l'embarras et à la timidité de l'homme du Nord, une impatience, un dégoût de toute chose, qui va souvent jusqu'à celui de la vie. Le français a une saillie de gaieté qui ne l'abandonne pas, et à quelques régimes que leur gouvernement les ait mis l'un et l'autre, ils n'ont jamais perdu cette première empreinte. Le français cherche le côté plaisant de ce monde. L'anglais semble toujours assister à un drame. De sorte que ce qu'on a dit du Spartiate et de l'Athénien se prend ici à la lettre. On ne gagne pas plus à ennuyer un français qu'à divertir un anglais. Celui-ci voyage pour voir. Le français pour être vu. On n'allait pas beaucoup à la Cédémone, si ce n'est pour étudier son gouvernement. Mais le français, visité par toutes les nations, peut se croire dispensé de voyager chez elles, comme d'apprendre leur langue, puisqu'il retrouve partout la sienne. En Angleterre, les hommes vivent beaucoup entre eux. Aussi les femmes, qui n'ont pas quitté le tribunal domestique, ne peuvent entrer dans le tableau de sa nation. Mais on ne peindrait les Français que de profil si on faisait le tableau sans elles. C'est de leur vice et des nôtres, de la politesse des hommes et de la coquetterie des femmes, qu'est née cette galanterie. Des deux sexes qui les corrompent tour à tour et qui donnent à la corruption même des formes si brillantes et si aimables. Sans avoir la subtilité qu'on reproche au peuple du Midi et l'excessive simplicité du Nord, la France a la politesse et la grâce. Et non seulement elle a la grâce et la politesse, mais c'est elle qui fournit les modèles dans les mœurs, dans les manières et dans les parures. Sa mobilité ne donne pas à l'Europe le temps de se lasser d'elle. C'est pour toujours plaire que le français change toujours. C'est pour ne pas trop se déplaire à lui-même que l'anglais est contraint de changer. On nous reproche l'impudence et la fatuité. Nous en avons tiré plus de parti que nos ennemis de leur flegme et de leur fierté. La politesse ramène ceux qu'a choqué la vanité. Il n'est point d'accommodement avec l'orgueil. On peut d'ailleurs en appeler aux Français de 40 ans. Et l'anglais ne gagne rien au délai. Il est bien des moments où le français pourrait payer de sa personne, mais il faudra toujours que l'anglais paye de son argent ou du crédit de sa nation. Enfin, s'il est possible que le français n'ait acquis tant de grâce et de goût qu'aux dépens de ses mœurs, il est encore très possible que l'anglais ait perdu les siennes sans acquérir ni le goût ni les grâces. Quand on compare un peuple du Midi à un peuple du Nord, on n'a qu'un des extrêmes à rapprocher. Mais la France, sous un ciel tempéré, changeante dans ses manières et ne pouvant se fixer elle-même, parvient pourtant à fixer tous les goûts. Les peuples du Nord viennent y chercher et trouver l'homme du Midi. Et les peuples du Midi cherchent et trouvent l'homme du Nord. Place ni cavalier français, c'est le chevalier français qui me plaît. disait il y a 800 ans, ce Frédéric Ier qui avait vu toute l'Europe et qui était notre ennemi. Que devient maintenant le reproche si souvent fait aux Français qui n'a pas le caractère de l'anglais? Ne voudrait-on pas aussi qu'il parlât la même langue? La nature, en lui donnant la douceur d'un climat, ne pouvait lui donner la rudesse de l'autre. Elle a fait l'homme de toutes les nations, et ce gouvernement ne s'oppose point aux vœux de la nature.